ce matin, la première dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 15. Voici donc ce que Jésus partage avec ses disciples avant de les quitter. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et un peu plus loin, dans ce même évangile de Jean, au chapitre 18, à partir du verset 33. C'est maintenant après son arrestation et il est traîné devant Ponce Pilate. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas, d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Notre Dieu, ta parole est source de vérité et sanctifie-nous par la vérité. Voilà, les citations des feuilles de culte vous auront certainement mis sur la piste aujourd'hui, en ce jour assez spécial que nous avons. Notre passage va nous conduire à méditer sur le thème de la vérité. Tout au long de l'évangile de Jean, Jésus va s'interroger sur la vérité. On l'a entendu à la fin de ce même évangile, Pilate, en signant la condamnation à mort de Jésus, va brièvement se demander ce qu'est la vérité. Mais on le sait, en bon politique, en fait, il s'en lave les mains. Image forte de ceux qui prétendent chercher la vérité, mais du bout des doigts. Chez beaucoup de nos contemporains, tout le long de leur vie, la moindre préoccupation, la moindre curiosité spirituelle n'arrive jamais. Elle n'existe pas dans leur parcours. Pourtant, la recherche de la vérité fait partie des préoccupations spirituelles et intellectuelles de tous les peuples et de tous les temps. Alors c'est très étonnant, elle est à chercher partout. Et pour nous, la vérité est enfouie au cœur de la Bible parce que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de tolérance, le Dieu de l'espérance se trouve être aussi le Dieu de vérité. C'est ce que disaient déjà les rabbins à l'époque de Jésus et lui-même ouvrait la voie qui mène à Dieu en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors c'est intéressant dans le passage de l'Évangile que nous avons lu, alors que Jésus parle de vérité, il laisse entendre que la vérité n'est pas encore de l'ordre du présent et qu'elle est de l'ordre du futur. L'esprit de vérité vous conduira, dit-il. La connaissance parfaite de la vérité reste quelque chose qui est en devenir, en travail. C'est un long processus. Ça veut dire que notre appartenance à Jésus-Christ ne va pas nous permettre de découvrir comme ça, en un instant, la vérité. Elle fait partie de la foi, mais elle n'est pas la foi. La foi, c'est une intuition qui peut brusquement transformer notre vie, parfois en un instant, comme ça. Il y a certaines personnes qui pourraient dire le jour et l'heure où leur vie s'est complètement transformée, où ils ont changé de direction. Et on peut dire en tout cas que la vérité, elle, demandera toujours une approche beaucoup plus longue. C'est un travail personnel de toute une vie. C'est une découverte progressive des choses, c'est un travail personnel sur soi-même aussi, pour entendre la vérité. Et on pourrait dire que la foi, c'est la certitude de l'amour de Dieu pour nous. S'il devait y avoir une certitude dans la foi, ça pourrait être celle-là. Et par contre, la vérité consiste, par la foi, grâce au Saint-Esprit, à s'intéresser à l'intimité de la pensée de Dieu. Jésus ici prépare ses proches aux différentes étapes de la vie spirituelle qui les attend. Dans un premier temps, ils recevront le choc du tombeau vide. Et puis, dans un second temps, ils chemineront en compagnie de Dieu à la découverte de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Demandera donc Pilate en se lavant les mains. Ce sera quelques jours à peine après cet entretien de Jésus avec les siens, avec ses disciples. Et Pilate signifie par ce geste qu'il ne s'implique pas dans la mort de Jésus. Pourtant, il va envoyer à la mort sans état d'âme particulier celui justement qui a les réponses et qui pourrait l'entretenir de la vérité. C'est dire que la vérité n'a aucun attrait pour lui, tout au moins la vérité telle qu'elle émane de Jésus. Parce qu'on peut imaginer que, pour Pilate, la vérité, c'est l'ordre, la discipline, la soumission. La vérité, pour lui, se limite à la préoccupation immédiate. Il ne vit que dans l'instant. Mais bien sûr, cette vérité-là est éphémère. Elle est très très vite érodée par le temps. D'ailleurs, quelques années plus tard, la décision de l'empereur d'envoyer Pilate en exil changera sans doute sa conception de la vérité. Il va creuser peut-être la chose parce que de bourreau, il est devenu victime et probablement qu'il a dû méditer alors sur la vérité, sur ce qu'elle est, en attendant que la mort lui ferme les yeux sur sa propre vérité ou sur la vérité de Dieu. Ainsi, il y a plusieurs vérités. Il y a celles qui appartiennent à la logique des hommes et qui varient au gré des temps, au gré des modes, des époques, des cultures. Elles sont multiples, elles prennent différentes formes suivant justement les temps, les moments, les cultures. Mais il y a aussi une vérité qui dépasse l'homme et qui est d'ordre métaphysique et qui ne s'accomplit qu'avec Dieu ou qu'en Dieu. Il y a donc des vérités, encore une fois, il y a la vérité toute relative qui est celle des hommes, qui s'oppose au mensonge tel que les hommes le conçoivent. Qu'est-ce que le mensonge ? On pourrait poser la question comme la question « qu'est-ce que la vérité ?» Elle serait intéressante aussi. Et puis, il y a cette vérité qui nous dépasse, qui vient d'ailleurs, et qui est la seule qui soit digne de retenir notre intérêt parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle est en Dieu. Sa recherche ne préoccupait pas particulièrement Pilate, donc comme elle ne préoccupe pas non plus nombre de nos semblables. Et en fait, cette deuxième vérité, celle qui est transcendante, qui nous dépasse, elle nous dérange un peu parce que, au fond de nous-mêmes, de manière intuitive, on peut peut-être deviner que pour y participer, il va falloir y consacrer du temps, de l'énergie. La poursuite de la vérité, on n'y entre que patiemment, que partiellement, en approfondissant toujours un peu plus sa foi, en se laissant provoquer par le Saint-Esprit, en changeant de regard sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres, sur notre manière de voir le monde et de le comprendre, de se comprendre soi-même. Cette quête réclame toute notre attention de chrétien, non seulement dans des moments comme celui-ci, surtout autour d'un petit baptisé comme on a eu, mais c'est aussi pour chaque jour de nos vies, hein, que notre âme, notre intelligence doivent rester en alerte et se nourrir en permanence des fragments de vérité que Dieu pose sur nos routes pour nous éclairer. Pourtant, beaucoup d'entre nous limitent leur relation à Dieu à l'acte de foi par lequel ils découvrent qu'ils sont sauvés par la grâce. Ah, on est sauvé par grâce, c'est gratuit, Dieu me donne le salut, alors c'est point final. Quel besoin d'aller à l'église pour m'entendre dire et répéter que j'ai besoin d'être pardonné encore une fois et encore une fois, puisque Dieu pardonne toujours, à quoi, pourquoi est-ce nécessaire ? Ils sont convaincus que la gratuité du salut, ça suffit. Et comprenez-moi bien, c'est très bien de le savoir et de le croire. On l'aura tellement répété qu'ils n'éprouvent pas le besoin de fréquenter nos assemblées pour permettre justement à leur connaissance de Dieu et de la vérité de grandir et d'évoluer. Très dommage. À quoi bon venir au culte, pense-t-il, pour recevoir le pardon qui est sans cesse renouvelé, gratuitement. Hein, la grâce de Dieu est tellement énorme, qu'est-ce qu'on a besoin de se retrouver là? Alors Calvin, qui flairait le danger, lui a trouvé une astuce. Il avait enseigné que le salut reçu par la prédestination n'était pas à tout jamais acquis, et que bien sûr la fréquentation de l'Église était fortement recommandée pour le consolider, pour être sûr d'être sauvé, c'était nécessaire de fréquenter l'Église. Alors bon, on n'a pas conservé cette manière de faire, basée un petit peu sur la peur, on va dire, mais bon, on a continué à prêcher la gratuité quand même du salut, mais tout en laissant les moins zélés, on pourrait dire, ou peut-être les plus malins, priver nos temples de leur présence. Et nous avons eu raison. En fait, la foi n'est que le premier aspect, le premier mouvement de notre relation à Dieu. Elle place Dieu devant nous comme un sauveur, comme un libérateur. Mais sauveur de quoi? Et libérateur de qui? Bien, le secret de notre foi dépend toujours de la manière dont nous allons approfondir notre connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Notre foi, en fait, elle doit remplir d'un contenu qui va donner du sens à ces termes de sauveur, de libérateur, derrière lesquels on place Dieu. Vous seul savez de quoi Dieu vous libère, de quoi il vous sauve. Chacun, personnellement, doit le savoir pour lui-même. Le salut est différent et unique pour chacun parce que nous sommes tous différents et uniques. Pensez-y, de quoi Dieu vous sauve-t-il? Ça peut être d'une vie qui semble inutile, difficile, qui n'a pas vraiment de sens, ou douloureuse. Ce serait intéressant de se poser la question, en tout cas, pour avancer. Un jour, on comprend, et alors ça nous saute aux yeux. Et c'est à partir de là que nous entrons vraiment avec soif dans la recherche de la vérité. Et la Bible nous apprend que dans ce processus, c'est d'abord Dieu qui vient vers nous. Son esprit rencontre notre esprit, il parle à notre intelligence, il donne du sens à notre réflexion, et la vérité de Dieu alors prend corps, lentement, petit à petit, pas à pas, au cours de toute une vie. Elle mettra toute notre vie terrestre à se façonner, et à approcher au plus près, on va dire, de la réalité de Dieu. Le salut est acquis une fois pour toutes, on est bien d'accord, mais la connaissance du salut, ça c'est un processus, un long processus, et avancer dans cette connaissance nécessite un compagnonnage de tous les jours, et c'est pourquoi cette promesse de Jésus à propos de l'Esprit. Vous n'êtes pas seul. Nous savons bien sûr que la recherche de la vérité n'était pas le seul fait de Jésus. Beaucoup de rabbins, beaucoup de sages, avant lui même, cherchaient depuis longtemps à approcher la vérité d'un peu plus près. Les maîtres de la loi, ses contemporains, disaient que l'existence du monde reposait sur trois choses: la vérité, la justice et la paix. Et la vérité était la plus fondamentale, la plus grande, la première. Elle servait même à définir Dieu pour les rabbins. Pour eux, Dieu avait abordé une première fois cette notion de vérité en donnant la loi par la main de Moïse, mais cette loi transmise par un homme, ce n'était qu'une ébauche de la vérité. Ce qu'elle impliquait, pour ceux qui la recherchaient alors, c'était un désir de dépassement. Il fallait absolument accomplir la loi, ce que les prophètes avaient formulé de plein de manières différentes à travers les siècles. Jésus en a rendu la réalisation possible. Jusque-là, c'était des mots. La mort et la résurrection de Jésus donnaient alors à la loi une dimension nouvelle. Elle devenait désormais partage de vie avec Dieu. Cette loi devenait intérieure à l'homme. La vérité que propose Jésus consiste donc à entrer dans ce partage avec Dieu, à entrer dans cette alliance dont on a posé un signe aujourd'hui sur Tristan. L'Esprit du Christ permet à ceux qui le reçoivent de participer dès maintenant et pas dans l'avenir, dès maintenant, à toutes ses promesses. C'est là le miracle que Dieu fait pour nous. Il consiste à bénéficier de l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, mais sans avoir eu, nous, à la subir. Comprendre ça, c'est déjà peut-être un premier pas sur le chemin de la sagesse et de la vérité. La vérité consiste donc à entrer par l'action du Saint-Esprit dans la proximité de Dieu, afin que ce soit lui qui inspire nos décisions, les décisions que nous prenons, qui inspire nos choix, qui motive nos actions, toutes les actions que nous faisons. Il ne s'agit donc pas de s'asseoir au bord du chemin en disant « Inch'Allah, hein, que le Dieu voulant, quelque chose va m'arriver ». Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas attendre passivement que Dieu agisse. Il s'agit plutôt d'un combat sur nous-mêmes où nous prenons nos décisions, mais en fonction de notre relation à Dieu, de ses conseils. En faisant comme ça, nous tendons seulement à mettre nos actions en conformité avec la volonté de Dieu, dans une confiance tranquille, sans même préconiser de la suite à venir. Alors en agissant comme ça, nous ne sommes pas plus sauvés que les autres et nous ne les devançons en rien dans le royaume ou dans les faveurs de Dieu, nous répondons seulement à notre vocation de chrétien. En fait, chercher la vérité, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et ainsi, nous permettons que s'entrouvent un peu plus les portes du royaume en nous et autour de nous. Grégoire, Anne-Lise est partie. Et c'est bien là le sens de l'engagement que vous avez pris ce matin pour Tristan, comme vous l'aviez fait pour Timothée. Faire chaque jour un pas de plus avec eux dans la recherche de la vérité, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient suffisamment grands pour pouvoir chercher par leurs propres moyens. Mais votre rôle, c'est voilà, de les accompagner dans cette démarche. Et nous vous souhaitons toute la patience, la sagesse nécessaire sur cette belle route pour vivre avec Timothée et Tristan cette longue et passionnante aventure. Amen.